Vous écoutez les podcasts Mickey vers une prise en charge personnalisée. Deux épisodes des éditions John Libé réalisés avec le soutien des laboratoires Takeda. Dans ce premier épisode, le docteur Mathurin Flamand, gastro-entérologue à la clinique Jules Verne de Nantes, fait le point sur les outils prédictifs d'aujourd'hui et de demain.
Pour quelle raison parler d'outils prédictifs ? Toutes les maladies inflammatoires ne se ressemblent pas. On voit bien que la présentation initiale pour nos patients peut être complètement différente d'un patient à l'autre. Pour certains patients, on découvrira des formes inflammatoires pures. Pour d'autres patients, la maladie sera compliquée d'emblée. Et on entend par compliquée des maladies parfois sténosantes, fistulisantes. Le malade peut avoir une occlusion intestinale, peut avoir une perforation avec abcès. Il est évident que les prises en charge pour ces patients seront complètement différentes. Différentes également dans la localisation de la maladie, et ça c'est un point important. Dans la maladie de Crohn, on ne peut pas considérer de la même façon les patients qui ont une atteinte iléale distale pure des autres patients qui peuvent avoir des maladies beaucoup plus extensives, comme des atteintes duodénales, jéjunales ou pancoliques. Dans la rectocolite hémorragique aussi, ce n'est pas pareil de voir une atteinte simplement rectale d'autres patients qui ont des atteintes beaucoup plus étendues, notamment des atteintes coliques gauches, transverses, voire des atteintes pancoliques. Enfin, différent dans la sévérité endoscopique, pour certains, on va découvrir de simples érythèmes sur la paroi intestinale. Pour d'autres patients, des ulcérations très sévères, très creusantes. Et là aussi, évidemment, la prise en charge doit être complètement différente et à la hauteur de la sévérité de la maladie. On parle de tout cela au diagnostic, mais c'est pareil pour l'évolution qui peut être aussi différente. Certaines formes sont rapidement évolutives et d'autres qui sont curieusement assez stables dans le temps, parfois sans qu'elles nécessitent de traitement. On a tous dans notre patientèle des patients perdus de vue, on les revoit quelques années après. Et finalement, la forme de la maladie, la localisation de la maladie n'a pas bougé. Et finalement, même des patients qui n'ont pas de traitement. Alors, on aimerait avoir des outils prédictifs évolutifs de maladies sévères, de maladies compliquées, de maladies extensives. Et aujourd'hui, on ne les a pas si facilement. L'idéal, ce serait d'avoir ce type d'outils pour pouvoir mieux surveiller les patients dans notre prise en charge de tous les jours. Alors, existe-t-il des marqueurs ou des outils utiles à la prise en charge quotidienne de nos patients ? Je vous propose dans ce podcast de rappeler quelques points essentiels dans la prise en charge des maladies inflammatoires. Certains paramètres, qu'ils soient cliniques, biologiques, échographiques ou encore endoscopiques, sont importants à prendre en considération et à surveiller. Alors, premièrement, les paramètres cliniques. Certains sont reconnus comme étant des facteurs d'évolution péjorative. Pour la maladie de Crohn, un âge jeune au diagnostic, ce n'est pas la même chose de découvrir une maladie de Crohn à 10 ans que de le découvrir après 50 ans. Les patients fumeurs, parce qu'on sait que le tabagisme, notamment le tabagisme actif, est un facteur d'évolution péjoratif. La récurrence post-opératoire précoce est un facteur péjoratif également. Des patients qui peuvent avoir une atteinte d'emblée compliquée, notamment des atteintes fistulisantes ou une atteinte iléale longue ou encore des maladies anopérinéales associées. Tous ces paramètres sont à prendre en considération parce que facteurs d'évolution péjoratif pour nos patients. Pour la rectocolite hémorragique, surtout des critères cliniques, notamment les critères de Trulov, à savoir la fréquence, le sang dans les selles, la tachycardie, la fièvre, mais aussi des marqueurs biologiques comme l'élévation de la vitesse de sédimentation. Alors, on fera plutôt la CRP, mais tout ça sont des marqueurs de sévérité. Et certaines études ont démontré d'autres marqueurs également, un peu moins connus, comme l'hypoalbuminémie et l'élévation de la calprotectine, qui peuvent être des facteurs de risque de colectomie. Il faut être vigilant quand on retrouve ce type de marqueur. Concernant la biologie, la CRP d'abord, elle est utilisée dans les deux maladies inflammatoires, dans la rectocolite. Elle est assez souvent normale, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inflammation. Et à l'inverse, si elle est élevée dans cette pathologie, il faut bien la considérer parce que ça peut être un facteur de gravité de la maladie. Ça peut être le témoin d'une colite aiguë grave. Dans cette situation, il faudra être vigilant et peut-être réitérer des examens, notamment endoscopiques, et adapter le traitement et la surveillance en fonction. Dans la maladie de Crohn aussi, la CRP peut être utile. Elle peut être le témoin d'une inflammation intestinale alors que le patient est en rémission clinique complète. On peut avoir des discordances entre l'état clinique du patient et finalement l'état morphologique, même l'état endoscopique. Et on doit, dans ces cas-là, comprendre pourquoi une CRP est élevée. Est-ce que justement, même si le patient est en rémission clinique, il n'y a pas une inflammation morphologique endoscopique, peut-être en revenant là des investigations morphologiques ou endoscopiques et adapter le traitement en fonction. Alors, un petit rappel, la CRP peut être physiologiquement élevée chez des patients en surpoids et ça reste quand même à des valeurs modérées, en dessous de 25 mg par litre. Un autre paramètre biologique important à prendre en considération, la calprotectine fécale. Tout le monde connaît maintenant ce marqueur. C'est un marqueur d'inflammation présent dans les selles avec une valeur qui est dite positive au-delà de 250 mg par kilo. Et dans plusieurs situations, la calprotectine peut avoir un intérêt prédictif. Alors, premièrement, elle peut être un marqueur prédictif de réponse au traitement et d'évolution favorable. Wollander avait démontré que la normalisation de la calprotectine fécale après l'induction d'un traitement par anti-TNF-alpha prédisait une évolution favorable à un an. Deuxièmement, elle peut précéder la rechute clinique. Et là, je relaterai une étude de 2012, post-hoc de l'étude STORY. Je rappellerai que STORY, pour mémoire, c'est l'évolution des patients qui ont une maladie de Crohn et qui arrêtent un traitement anti-TNF-alpha tout en poursuivant un simple immunosuppresseur classique. Et bien, dans cette étude, on constatait une élévation de la calprotectine environ 6 mois avant la rechute clinique. Et un peu de la même façon, en rectocolite hémorragique, une équipe néerlandaise, de vos collaborateurs, avait démontré que l'élévation de la calprotectine à 2 reprises à 1 mois d'intervalle était prédictive d'une rechute clinique à 1 an chez les patients en rémission. Troisièmement, la calprotectine est corrélée à une rechute endoscopique chez les patients opérés pour maladie de Crohn, avec des valeurs seuil un peu plus basses, aux alentours de 140 mg par kilo, et ça avec une bonne sensibilité et une bonne spécificité. Alors de là à dire que la calprotectine pourrait remplacer la coloscopie au 6e mois post-opératoire chez les patients donc opérés pour maladie de Crohn, peut-être pas, mais parfois ça peut être utile pour des malades chez qui on craint une rechute, une récidive assez rapide après l'opération, on pourra proposer une calprotectine peut-être au 3e mois ou au 4e mois, ce qui pourra nous aider parfois à anticiper un peu la coloscopie. Alors un autre marqueur qui est non-invasif, mais qui peut être également intéressant parce qu'il peut être prédictif de la réponse thérapeutique, c'est l'échographie intestinale. Aujourd'hui, on sait que l'échographie prend une place de plus en plus importante dans la prise en charge de nos patients qui ont une maladie inflammatoire et dans plusieurs situations. Au diagnostic d'abord, parce que ça permet de différencier une maladie inflammatoire de patients qui ont un simple syndrome de l'intestin irritable. En cas de présence aussi de symptômes chez les patients qui ont une maladie avérée pour déterminer une poussée de la maladie. Et puis une troisième situation pour prédire justement la réponse au traitement. Plusieurs études ont démontré, notamment dans la rectocolite hémorragique, que la diminution de l'épaisseur pariétale au cours des premières semaines de traitement était prédictive d'une réponse thérapeutique. Je rappellerai que l'épaisseur pariétale normale à l'échographie doit faire moins de 3 mm. Aujourd'hui, c'est difficile de dire que l'échographie pourrait remplacer une rectoscopie d'évaluation, mais elle peut rendre service et parfois elle peut éviter des examens invasifs, notamment en cas de non-réponse thérapeutique. Prenez l'exemple d'un patient qui a encore des symptômes cliniques comme du sang dans les selles, comme de la diarrhée, des impériosités, et chez qui on voit à l'échographie une inflammation intestinale. On n'a pas besoin forcément d'aller refaire une rectoscopie chez ces patients-là avant de décider une modification thérapeutique. Enfin, dernier point, l'endoscopique est essentiel aussi dans la surveillance pour nos patients. C'est pour ça que dans le consensus TRIDE, on recommande de surveiller l'évolution endoscopique des patients après l'introduction d'un traitement. On dit 3 à 6 mois dans la rectocolite hémorragique et 6 à 9 mois pour la maladie de Crohn. Et ça, cette recommandation repose sur le fait que sur le plan endoscopique, un score Mayo 0 ou 1 dans la rectocolite hémorragique et l'absence d'ulcération de la maladie de Crohn, ce sont des objectifs à atteindre car ils sont corrélés à un profil évolutif plus favorable. Je pense que c'est important de prévenir le patient dès le diagnostic qu'il faudra faire une surveillance endoscopique parce qu'il faut lui faire comprendre que l'évaluation endoscopique nous servira, nous praticiens, à adapter son traitement, ce qui permettra un meilleur profil évolutif. En conclusion, je pense qu'on peut dire que la médecine personnalisée idéale de demain sera de pouvoir reconnaître d'emblée le malade le plus à risque d'évolution défavorable, sûrement de lui donner le traitement le plus adapté dès la première ligne de biothérapie, de reconnaître le patient qui pourrait arrêter le traitement sans risque de rechute, d'être à faible risque de rechute post-opératoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des études de stratégie qui visent à répondre à ces questions. Des efforts sont faits pour rechercher des scores prédictifs de réponse thérapeutique. Et là, je vous inviterai à écouter le podcast du docteur Florent Gonzalez sur les critères de choix de traitement en deuxième ligne après échec d'anti-TNF-alpha.
Bientôt dans les podcasts Mickey vers une prise en charge personnalisée, un nouvel épisode sur la maladie de Crohn et les critères de choix d'un traitement de deuxième ligne après l'échec d'un anti-TNF. Ce programme est soutenu par les laboratoires Takeda. Il est réalisé en toute indépendance et sous la seule responsabilité des auteurs et du directeur de la publication qui sont garants de l'objectivité de l'information délivrée. Ce programme a pour objectif de fournir des informations sur l'état actuel de la recherche. Les données présentées sont susceptibles de ne pas être validées par la commission d'autorisation de mise sur le marché et dans ce cas ne doivent donc pas être mises en pratique. Le docteur Mathurin Flamand déclare avoir des liens d'intérêt avec les laboratoires AbbVie, Amgen, Biogen, Celltrion, Janssen, Lilly, MSD, Pfizer, Takeda, Tilots Pharma. Une production des éditions John Libbey.